Donc cet enregistrement est l'équivalent oralisé de pages qui se trouvent à l'espace public sur mon site internet. Ces pages donc qui font partie du grand exposé sur l'interprétation de la Bible à la lumière de la tradition d'Église. Donc je vais commencer par l'introduction. Cet enregistrement a pour but de vous aider à retirer un enseignement spirituel de toute lecture de la Bible, quel que soit le degré d'obscurité des pages que vous serez amené à lire. Si l'on résume les difficultés rencontrées par un lecteur des Écritures, on peut arriver à trois types d'obstacles. Le côté rébarbatif de certains passages, que l'on songe un instant aux prescriptions contenues dans le livre du Lévitique ou aux nombreux recensements du livre des Nombres, sans compter les généalogies de la Genèse. Ensuite, il y a le manque d'exactitude, entre guillemets, scientifique dans un nombre non négligeable de passages bibliques, les 11 premiers chapitres de la Genèse, par exemple. Et enfin, l'aspect le plus que choquant que l'on peut trouver dans les pages sombres de la Bible, qu'il nous suffise de penser au livre de Josué, par exemple. Les clés interprétatives qui vont vous être données vous aideront sans nul doute à passer outre ces obstacles en vous permettant de ne pas vous arrêter à la littéralité du texte pour dépasser le terreau culturel dans lequel les auteurs humains de la Bible ont écrit. Grâce à ces principes d'interprétation, vous pourrez aller chercher l'inspiration divine derrière les limitations humaines des auteurs bibliques, limitations au premier rang desquelles se trouve précisément une connaissance scientifique limitée chez l'auteur, due à son époque, et une morale défaillante chez lui, pénétrée qu'elle était de la violence des temps reculés où les scènes bibliques se déroulaient. Je voudrais maintenant passer à une petite rubrique que j'ai appelée avertissement. Il faudra bien vous souvenir en lisant cet exposé, ou en l'écoutant ici dans l'enregistrement, que les principes d'interprétation présentés ici ont été simplifiés pour en permettre une utilisation immédiate. Voici maintenant les prérequis. Tout d'abord, une lecture croyante. Il vous faudra bien vous souvenir de la remarque suivante. Le premier principe pour une interprétation correcte de la Bible, c'est de prier l'Esprit Saint de nous aider à comprendre ce que lui-même a inspiré. Confère 2 Pierre 1, 21. En effet, l'utilisation de notre raison ne dispense en aucun cas de l'aide de Dieu dans la lecture de sa parole. En conséquence, ce qu'il nous faudra toujours faire en premier lieu, c'est prier l'Esprit pour qu'il nous aide dans notre méditation. Il va sans dire aussi que la bonne lecture de la parole doit être une lecture croyante, d'où un respect absolu qu'il nous faudra montrer pour les saintes Écritures. Aussi ne faut-il jamais juger un texte, aussi choquant soit-il, bien au contraire, il faut avoir l'humilité de se remettre en cause devant le passage qui nous choque, sachant qu'il fut inspiré et non dicté à un auteur qui avait forcément les limites morales inhérentes à son époque. Dieu l'a voulu ainsi dans son respect de nos libertés et donc de nos faiblesses et limites. Oserions-nous le juger? Supposons que Dieu ait dicté sa parole mot pour mot à des secrétaires et non des auteurs. Nous aurions alors un livre bien ficelé, auréolé de l'autorité divine, écrit dans une langue sacrée, intouchable, immuable, comme du marbre. L'humanité n'aurait qu'à se transmettre ce monument d'âge en âge jusqu'à la fin des temps. Pas besoin de témoins, mais de gardiens de musée. Pas besoin de militants, mais de sacristains. Pas besoin de croyants, mais de répétiteurs de formules devenues incompréhensibles au fil des années. Il n'en est rien. La Bible ne constitue pas un ouvrage clos. Elle ouvre autant de chemins que d'auteurs. Elle nous présente autant de regards. Elle témoigne d'une réflexion longue, diversifiée, confrontée aux réalités de la vie. Les Écritures nous conduisent vers Jésus de Nazareth, le vivant. Les Écritures nous conduisent vers Jésus de Nazareth, le vivant. Elles n'invitent, pardon, donc pas à répéter des formules, mais à se mettre en route. Se mettre en route sur les chemins du quotidien et de la mise en pratique de la parole du Seigneur. Certes, mais aussi et d'abord, il ne nous faudrait pas oublier que la parole de Dieu nous invite à nous mettre en route dans la méditation et l'utilisation de notre intelligence pour mieux comprendre la parole de Dieu, la Bible, pourvu que le tout se fasse dans un esprit d'humilité à l'écoute de l'Esprit Saint. Notons enfin que ce respect pour les saintes Écritures, dont saint Paul nous dit qu'elles sont toutes entières inspirées, confère 2 Timothée 3,16, ne diffère en rien de l'attitude de Jésus lui-même, lui qui disait ne pas abolir les Écritures, mais les accomplir, Matthieu 5,17. De même, quand Jésus citait la Bible, il ne mettait jamais en doute son inspiration, confère Matthieu 5,18 à 19, bien qu'il ne contestât pas non plus la nécessité de l'interpréter, confère Marc 10, 2-9, Matthieu 13, 52. N'avait-il pas d'ailleurs des interprétations originales des saintes Écritures? Confère Luc, chapitre 20, versets 37 à 38. Le respect de la parole de Dieu dont nous venons de parler entraîne également une attitude humble et priante devant les difficultés que nous rencontrerons à la lecture de certains passages. N'hésitons pas alors à prier Dieu de nous guider dans la lecture de tel ou tel passage et acceptons de ne comprendre que ce que nous pouvons comprendre. Dieu nous révèle son message à la mesure de notre avancement et de notre sensibilité. Il ne faut donc pas essayer de forcer l'interprétation d'un passage qui nous semble difficile. Forcer l'interprétation, c'est faire par exemple plus appel au raisonnement intellectuel qu'à la prière. Que faites-vous ou feriez-vous devant un passage de la Bible qui vous paraît obscur? Essayeriez-vous de redoubler de prières ou de vous acharner à comprendre par le raisonnement? En dernier lieu, n'oublions pas que Dieu n'a pas la même notion du temps que nous, confère 2 Pierre 3,8. Il ne se presse pas en nous faisant violence. Dieu prend le temps de respecter nos libertés et nos limites, ce qui veut dire qu'il faut parfois accepter de ne pas comprendre tout tout de suite. La prière devant la parole de Dieu peut quelquefois nous conduire à la sagesse de nous rendre compte qu'il est nécessaire de laisser du temps à la parole de Dieu pour faire son chemin. Il arrive en effet que certains passages s'éclairent progressivement sur des années. Ainsi, un passage qui nous paraissait obscur peut nous paraître limpide des années plus tard, l'esprit ayant travaillé dans l'intervalle. Dieu, en effet, prend le temps d'agir en respectant ce que nous sommes. Il ne veut pas nous imposer une explication que nous ne sommes pas encore en état de comprendre. C'est pourquoi il prend le temps de travailler avec le temps pour que tout mûrisse et que par là notre adhésion à son message soit rendue libre. Pour en revenir à l'interprétation de la Bible, remercions le Seigneur dont la patience ne vise qu'une seule chose, que nous puissions comprendre avec notre cœur, notre intelligence et notre raison ce qu'il a à nous dire. Que ce Dieu est grand, lui qui ne brusque personne. Sa puissance est justement dans sa patience. Confère 2 Pierre 3,9. Soyons-en sûrs, notre humilité sera récompensée quand, après avoir eu la sagesse de prier et d'attendre, nous comprendrons certains passages que nous jugions difficiles, voire révoltants, et ce peu importe le temps que cela prendra. Il vaut mieux comprendre dans l'humilité la patience et la prière avec l'aide du Seigneur, plutôt que de se laisser imposer une interprétation à force de raisonnement. Une telle interprétation, soyons-en sûrs, ne pourrait de toute façon pas pénétrer en profondeur notre cœur. Une remarque ici s'impose. Ne soyons pas surpris de ne pas rester figés dans nos interprétations. En effet, au fil des années, notre foi grandit, et donc nos interprétations peuvent également plus ou moins changer. Ainsi, il n'est pas rare de lire un même texte différemment avec le cours du temps. Ce phénomène est d'autant plus normal que le rapport vie-Bible évolue. Certes, la Bible éclaire nos vies, mais l'inverse est aussi vrai. Ce que nous vivons nous aide assurément à mieux pénétrer le message biblique. Il n'est alors pas étonnant de voir nos regards changer par rapport à tel ou tel passage. Évidemment, au fur et à mesure que nous nous familiariserons avec la Bible, nos interprétations finiront par se stabiliser, mais cela ne nous empêchera jamais de découvrir de nouvelles perles à condition, toutefois, de ne pas aborder un texte apparemment connu avec un esprit blasé. C'est en acceptant d'entrer dans un texte avec un regard neuf, sans préjugés, et ce, quel que soit le degré de familiarité que nous entretenons avec lui, que nous pourrons tirer du neuf à partir de l'ancien. Confère Matthieu 13, 52. Je voudrais maintenant parler d'un autre prérequis, la lecture dite canonique. Ensuite, il nous faut pratiquer ce que l'on peut appeler la lecture canonique de la Bible. Cette lecture pose le principe de l'unicité de la parole de Dieu au-delà de la diversité des auteurs bibliques, d'où la mise en place d'un canon par l'Église. Le canon, c'est donc la liste des livres reconnus comme inspirés. Il s'ensuit que la meilleure interprète de la Bible est la Bible elle-même. La Bible explique la Bible. Il n'est en effet pas rare que certains passages s'éclairent par la lecture d'autres passages. Ce principe est même le fondement d'une des clés de lecture qui vous sera proposée. Ainsi, les anciens et les pères de l'Église pensaient qu'il était tout à fait naturel et légitime d'expliquer l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau. Le Christ ne fit pas autre chose quand il expliqua aux disciples en route vers Emmaüs l'Écriture à la lumière de sa passion et de sa résurrection. Confère Luc 24, versets 25 à 27. La conséquence pratique de ce qui vient d'être dit est qu'il nous faut beaucoup lire la Bible si nous voulons qu'elle nous éclaire sur elle-même. De plus, la lecture régulière de la Bible a une autre vertu. Elle contribue à ce que nous nous laissions toujours davantage apprivoiser par les saintes Écritures. En effet, plus nous lirons la parole de Dieu, plus nous serons familiers de son style, de sa mentalité, etc. Si vous voulez déjà vous familiariser avec les livres qui composent la Bible et savoir les retrouver dans l'ordre, je vous propose d'aller sur la version écrite et de cliquer sur un lien qui vous proposera de savoir chercher sur certains passages, savoir chercher certains passages dans la Bible. Donc l'autre conclusion que l'on peut tirer de cette lecture dite canonique n'en est pas moins importante. Si la Bible s'éclaire effectivement par elle-même, il ne fait alors aucun doute qu'elle n'est pas d'abord l'œuvre d'auteur humain, mais bien l'œuvre d'un auteur unique, comme l'affirme d'ailleurs l'Écriture. En effet, dit l'Écriture, les prophéties n'ont jamais trouvé leur origine dans la volonté des hommes. C'est bien guidé par la volonté divine qu'ils ont parlé, inspirés qu'ils étaient par l'Esprit Saint. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 21. Il arrive donc que le message profond d'un texte échappe à son auteur humain, notamment quand il s'éclaire à la lumière de textes antérieurs. Je voudrais vous conseiller d'aller sur la version écrite de ce que je viens de lire et que vous regardiez l'exemple qui vous est soumis où on compare le premier chapitre de la Genèse avec le dernier chapitre de l'Apocalypse. Vous verrez, c'est instructif. Alors, si vous allez le voir, vous verrez que ce parallèle en profondeur, évidemment, ne pouvait qu'échapper aux auteurs de ce passage de la Genèse, et il est fort à parier qu'il échappa également à l'auteur de l'Apocalypse. Un tel parallèle n'a pu exister que grâce à la main d'un auteur unique, et ce, à plusieurs siècles d'intervalle. Seul un auteur divin pouvait être capable de pareils exploits. Fermons ici cette parenthèse qui nous donne déjà un avant-goût du chapitre qui sera consacré à la lecture spirituelle de la parole de Dieu. Enfin, même s'il est vrai que la lecture personnelle de la parole de Dieu est une véritable nourriture, confère Ézéchiel chapitre 3 verset 1, Matthieu chapitre 4 verset 4, il est bon de nous souvenir qu'il existe des bornes qu'il ne faudra jamais dépasser sous peine de mal interpréter les Écritures. Quelles sont-elles? Elles sont en fait de deux ordres, doctrinales et morales. La borne morale est assez simple à respecter. Elle consiste à ne jamais voir dans un passage biblique autre chose que l'amour de Dieu en action, aussi choquant ce passage puisse-t-il être. De même, chaque interprétation doit toujours déboucher sur un plus grand désir de notre part d'aimer Dieu et nos frères, ces deux derniers aspects constituant, selon Jésus, les deux plus grands commandements. Confère Lévitique chapitre 19 verset 18, Romains chapitre 13 verset 8 à 10, et bien sûr le passage que je vais lire, Matthieu 22 verset 33 à 40. Ayant vu que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens, les pharisiens se réunirent. L'un d'eux, un spécialiste de la loi, le mit à l'épreuve en lui demandant « Maître, quel est le plus grand commandement dans la loi ?» Jésus répliqua « Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est le premier et le plus grand des commandements. Avec le second qui lui est semblable, aime ton prochain comme toi-même. Toute la loi et les prophètes se résument à ces deux commandements. Il est donc vital, pour respecter cette borne morale, de toujours garder présent à l'esprit ces deux commandements. En outre, il nous faudra nous souvenir que Jésus est le centre des Écritures, notamment sa passion et sa résurrection, confère Jean 5, verset 39, puis verset 46, Luc 24, versets 25 à 27, Actes 8, versets 26 à 35. Si nous avons mémoire que Dieu nous a aimés au point de prendre sur lui nos fautes et nos défauts, ce qui le conduisit à se donner en son Fils sur la croix afin de nous libérer de nos prisons, soyons sûrs alors qu'il nous sera effectivement pas difficile de voir l'amour de Dieu briller dans toutes les pages de la Bible, confère Isaïe 53, 1 Pierre 2, 24-25, Jean 3, 16-17, Romains 8, 31-39. Signalons que cette approche christique est le fondement d'une des clés de lecture qui vous sera proposée, confère le sens allégorique. Avant de continuer, je vous propose, pour illustrer ce que je viens de dire, la lecture de ces quelques versets tirés d'un des passages dont vous venez d'avoir les références, là que j'ai cité. Il s'agit de Romains chapitre 8, versets 32, puis 35, puis 37, puis 39. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné en rançon pour la multitude, comment dans sa grâce ne nous donnerait-il pas tout à nous aussi? Qui nous séparera de l'amour du Christ? Rien, car en toute chose, nous sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés. Ni la hauteur, ni la profondeur, non, rien de toute la créa dans toute la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu pleinement manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et puis, maintenant, abordons la deuxième borne, la borne doctrinale. La borne doctrinale est parfois, et même parfois la borne morale, ne peut se respecter que dans la connaissance de la tradition. Pour avoir un aperçu de ce qu'on entend par tradition, je vous conseille d'aller voir l'espace tradition sur le site. Donc la base de la tradition étant bien entendu le credo. Le credo, c'est vous récitez notamment tous les dimanches à la messe. Donc c'est à cette condition que nous éviterons les erreurs doctrinales qui, ne nous y trompons pas, ne sont pas qu'abstractions de théologiens. Les apôtres eux-mêmes ont consacré beaucoup de leur énergie à combattre ce que nous appelons les hérésies. Galates 1:8, Éphésiens 4, verset 4, puis verset 14, 2 Thessaloniciens 2:15, 1 Timothée 1, 3-4, puis verset 10-11, 1 Timothée 4, 1-2, 2 Pierre 2, 1-3, 1 Jean 2, 18-19, puis verset 24, puis verset 26, Apocalypse 2,6. Cette borne doctrinale est importante pour deux raisons. D'abord, elle constitue une protection contre les sectes d'inspiration biblique, style témoin de Jéhovah. Ensuite, certains dogmes sont d'une telle importance pour mieux comprendre Dieu, le Christ et l'amour divin, qu'ils sont vitaux pour notre compréhension et notre connaissance du Seigneur. Or, n'est-ce pas à la mesure de la connaissance que nous avons d'une personne que nous pouvons l'aimer davantage? À la lumière de ce qui vient d'être dit, il sera donc toujours souhaitable d'approfondir notre connaissance de la tradition, de concert avec notre désir d'approfondir notre connaissance biblique. Ainsi, nous pourrons veiller à ce que notre interprétation ne dévie jamais du saint dépôt. 1 Timothée 6,20. Pour mieux connaître la tradition de l'Église, je vous suggère de consulter la table de liens qui vont donc sur la page d'accueil, qui vous conduira à des présentations détaillées de chaque composante, de ce qui fait la tradition. Le sens plénier, pour terminer. Avant de passer aux clés de lecture, il nous reste encore un dernier point à aborder. Nous ne pourrions en effet conclure ce chapitre sur la tradition de l'Église comme borne doctrinale sans parler du sens plénier. Ce type d'interprétation n'est pas fréquent, mais quand il existe, il nous faut en tenir compte dans notre méditation de la parole de Dieu. Toutefois, il est utile de préciser, dans un même temps, que le sens plénier n'empêche en rien une interprétation plus personnelle, à condition que celle-ci n'entre pas en contradiction avec l'interprétation officielle de l'Église. On entend donc par sens plénier une interprétation officielle que l'Église a émise sur tel ou tel passage. Généralement, nous en avons connaissance par la fréquentation de la messe. Ainsi, il n'est pas rare qu'une lecture biblique lue à la messe soit associée à une fête. Par exemple, Matthieu 16, 3, 20, le 22 février pour la chaire de Saint-Pierre. De même, il arrive assez fréquemment qu'un prêtre nous rappelle dans une homélie le sens plénier d'une lecture de la messe. Pour vous donner une idée plus claire de ce qu'est le sens plénier, je vous suggère de considérer cet exemple, qui se trouve en Matthieu 16, versets 13 à 20. Quand Jésus dit à Pierre qu'il est Pierre et que sur cette pierre, il bâtirait son Église, lui confiant par la même occasion les clés du royaume des cieux avec le pouvoir de lier et de délier, il est tout à fait possible de comprendre cette déclaration du Christ comme s'adressant à tout chrétien. Un chrétien n'est-il pas un roc pour ses frères? N'a-t-il pas le pouvoir de lier et de délier les péchés de ses frères par le pardon et la prière? Ne détient-il pas alors les clés du royaume? Mais parallèlement, nous ne devons pas ignorer que l'Église a toujours interprété cette sentence du Christ comme s'adressant en premier lieu à Pierre et à travers lui à ses successeurs, les papes. Par le pape, l'Église se voit conférer le pouvoir d'enseigner ce qui est bien, ce qui est mal, liant et déliant. Elle détient par là les clés du royaume. On comprend mieux maintenant pourquoi Saint-Pierre est si fréquemment représenté avec une clé. Ce sens plénier a d'ailleurs débouché sur le dogme de l'infaillibilité du pape, proclamé au Concile Vatican I. De même, c'est à tous les chrétiens que le Christ donne le pouvoir de remettre ou de maintenir les péchés, en Jean 20, versets 22 à 23. Nous avons effectivement cette prérogative de retenir ou de remettre les péchés des autres en accordant ou en refusant notre pardon. Nous pouvons également, par notre intercession, contribuer à ce que la grâce miséricordieuse de Dieu efface les péchés de nos frères. Confère Nombre 14, 11, 20, Job 42, 7, 10, Romains 12, 19, 21, Jacques 5, 16, 1 Jean 5, 16. Donc, je disais, nous pouvons également, par notre intercession, contribuer à ce que la grâce miséricordieuse de Dieu efface les péchés de nos frères. Ou par négligence dans la prière d'intercession, nous pouvons aussi fermer les vannes de la miséricorde divine, maintenant ainsi certains de nos frères dans leurs péchés. Mais avant tout, nous dit le sens plénier, c'est aux apôtres que le Christ confie cette prérogative à travers eux aux évêques et ensuite par délégation épiscopale aux prêtres. C'est par conséquent dans le sacrement de réconciliation que s'exercera le plus pleinement et le plus efficacement ce pouvoir de l'Église de remettre ou de maintenir les péchés. En résumé, la connaissance du sens plénier d'un texte biblique, au même titre que les dogmes, credos, etc., ne doit pas brimer, mais bien plutôt baliser notre méditation personnelle, ce qui nous évitera bien des déboires, car ne l'oublions pas, une mauvaise approche doctrinale équivaut toujours, à plus ou moins long terme, à s'éloigner de l'enseignement du Christ et donc de la connaissance exacte de sa personne. Voilà, fin de l'enregistrement de l'introduction.